Alors, je vous pose la question ce matin, parce qu'il y a une question qui s'impose. D'où elle vient cette souffrance? Et si vous n'avez pas raté la deuxième session, vous devriez être capable de répondre. Est-ce qu'elle a une origine, cette souffrance? J'en vois qui font oui, et qui souffrent aussi. En fait, oui, il y a une origine. Si vous étudiez avec nous la grande histoire, parce que c'est la thématique du jour, alors vous savez que la souffrance fait partie de la vie depuis quand? Depuis la chute, il n'y avait que deux êtres sur la terre, depuis Adam et Ève. Alors pas depuis qu'ils ont été créés, eux ils ont été créés parfaits, sans problème, mais ils jouissaient d'une liberté totale. Et non, pas totale. En fait, ils avaient une énorme liberté, ils avaient le droit de manger de tous les arbres du fruit du jardin. Vous imaginez un grand supermarché, on vous dit, t'as le droit de prendre tout ce que tu veux, sauf cette bière. La mort subite. Les Belges savent ce que c'est. C'est alsacien ou c'est belge? C'est belge. Hein. Ouais, pour avoir un nom comme ça, ça peut être que belge. C'est une blague. En fait, ils avaient le droit de prendre de tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont choisi de prendre la seule chose qui était défendue. Et devinez ce qui s'est passé par la suite. Eh bien, il y a eu des conséquences. Ils ont goûté à la justice de Dieu. Parce que quand Dieu, il fait une promesse, eh bien, il la réalise. Et qu'est-ce qu'avait dit Dieu à Adam et Ève? Le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras certainement. Ça ne veut pas dire tout de suite, mais certainement. À la fin, tu vas mourir. Et donc, qu'est-ce qui s'est enclenché à ce moment-là? Le processus de dégénérescence. Donc la mort a commencé. C'est un petit peu l'image qu'a pris Maxwell la semaine dernière. C'est comme si vous prenez une rose, elle était bien en terre, elle allait vivre. On la prend, tac, on la coupe et on la met dans un verre d'eau. Elle va durer un temps, mais à un moment donné, les feuilles vont faner et la fleur va sécher. Et c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. Et nous, on est associés à Adam. En fait, la Bible nous associe à Adam. On est héritier du péché d'Adam et en même temps, on est responsable. Il suffit de quelques années de vie pour montrer qu'on est vraiment des pécheurs. Parce que c'est dans notre nature, dans notre ADN, j'allais dire, ADN spirituel, on est pécheur. On est tordu. Et la vie ne fait que manifester cet aspect-là. Mais ça, c'est une des conséquences, donc la mort, mais on a parlé de la dégénérescence et de la souffrance. L'homme va rencontrer des difficultés, ça va être de plus en difficile à vivre. Les chardons vont pousser, il va devoir gagner son salaire à la sueur de son front. Et ça va être difficile de vivre sur cette terre, mais en plus, il va y avoir les maladies, la dégénérescence, c'est ça. Les virus vont arriver, etc. Et donc, on va tomber malade. D'autres vont tomber plus malades. Certains plus que d'autres, et à des moments différents dans la vie. Mais voilà, ça c'est un peu la loterie, on n'y est pour rien, nous on l'a subi quelque part. Et là, je vois un bras en écharpe, d'autres avec des béquilles, hein, il y en a, ou avec des lunettes. Ça fait partie de la dégénérescence. D'autres avec des poils, ou sans poils, ça fait partie de la chute, les amis. Ça fait partie de la chute. On n'a pas tous la même crinière. Ben, on n'est pas tous des brebis. Mais on fait partie de ce monde. Et c'est pour ça que vous avez régulièrement des sujets de prière. Ça peut être multiple, mais on a régulièrement ces sujets. Et c'est aussi pourquoi on étudie la grande histoire. Parce que cette histoire, elle nous aide à comprendre le monde dans lequel on vit. Elle nous aide à comprendre nos propres souffrances, mais elle nous permet aussi d'aider d'autres personnes à comprendre ce qu'elles traversent. Et j'étais heureux d'entendre ce matin des gens qui prient et qui ont intégré ces données. Seigneur, c'est dur. Oui, on gémit dans ce corps-là. On souffre, mais on a de l'espoir. Parce que tu traverses cette épreuve avec nous, avec moi. Tu es avec moi, tu intercèdes pour moi. Vous voyez, tout ça, je l'ai entendu ce matin, et ça vient des Écritures, ça vient de cette grande histoire. Dieu les traverse avec nous. Et en fait, C'est un des objectifs de cette série, c'est que chacun puisse saisir cette grande histoire pour lui-même. Et ensuite, eh bien, qu'il la partage autour de lui, dans sa famille, avec ses amis, avec ceux qui cherchent des réponses, tout simplement. Et ce matin, on arrive à la session 8. Donc, on approche de la fin, là. Il y en a 12, on est à la 8e, et ce matin, ça s'intitule, vous l'avez derrière moi, la réconciliation. Et c'est un moment hyper important de comprendre le mécanisme de la réconciliation. Mais avant d'étudier le texte, on va regarder le résumé de la dernière fois, la session 7, la semaine dernière. Et, ah, pardon, c'est encore pas tout de suite. Elle nous est donnée ici, voilà. S'il y a un homme, donc c'était la semaine dernière, s'il y a un homme qui aurait dû avoir le bon Dieu sans confession, c'est bien Nicodème. Cet homme religieux a passé sa vie au service de la nation et pourtant, il doit lui aussi naître de nouveau. C'est le centre du message de Jésus. Dieu propose une nouvelle vie par la présence de son esprit en nous, malgré nos erreurs. Et là, on n'a pas traité, mais il y avait deux textes normalement. Il y avait Jean 3 avec Nicodème et Jean 4 avec la Samaritaine. Mais ça faisait beaucoup de textes, donc j'ai choisi Nicodème. Désolé, j'aurais très bien pu prendre la Samaritaine, mais j'ai déjà prêché dessus il y a quelques années. Et donc le résumé dit, c'est ce qui arrive à la femme samaritaine, elle qui semblait exclue, Jésus l'invite pourtant à boire l'eau vive qui désaltère vraiment. Un chamboulement, une invasion de Dieu qui change toute la vie comme une nouvelle naissance. Ça, c'est le résumé que vous trouvez dans les livrets. Et donc, ça nous amène à notre 8e session. Et l'objectif de cette session, c'est découvrir la perspective de Dieu sur la réconciliation qu'il propose. Alors, si vous avez vos livrets, je vous invite à les ouvrir. Et sinon, prenez vos Bibles ou bien suivez directement là. Et il va y avoir une bande audio qui va lire le texte. Donc, c'est Luc chapitre 15, versets 1 à 32.
Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant
« Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux !»
Alors il leur dit cette parabole.
Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue ». De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.
Il dit encore
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. »
Et voilà, long texte, 32 versets. Mais c'est sympa, n'est-ce pas, là, cette petite mise en scène, la Bible dramatisée, comme ils disent. Alors, on va pas dramatiser ce matin, mais on va simplement essayer de répondre aux questions qui sont dans le manuel. Et donc, le but, je le rappelle pour ceux qui sont juste là, c'est qu'on réponde à toutes les questions qui sont dans le manuel. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. Et si jamais vous savez plus quelle réponse, vous pouvez toujours réécouter le message ou reprendre les notes qu'on partage dans tous les groupes de maison. Alors, première question que l'on trouve dans le manuel. Quelles sont les deux catégories d'auditeurs? Et qu'est-ce qui les oppose dans leur rapport à Jésus? Pas très compliqué, hein, les questions. Donc, vous avez vu au verset 1 et 2, on voit ces deux catégories de personnes, je les ai surlignées ici, les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, et les pharisiens et les spécialistes de la loi. Alors, les collecteurs d'impôts, on ne les connaît pas trop. Vous en connaissez, vous, des collecteurs d'impôts? Vous les aimez? C'est vos copains? On n'aime pas les gens qui viennent nous piquer nos sous qu'on a gagnés durement, n'est-ce pas? Eux, c'est ce qu'ils faisaient, mais ils travaillaient pour le gouvernement ennemi. Donc vous imaginez, les collecteurs d'impôts, c'était un peu les collabos, hein? C'est-à-dire qu'ils travaillaient, ils étaient juifs, ils ponctionnaient l'argent des juifs pour le reverser et au passage, ils se graissaient la patte. Ça, c'est de bonne guerre, on le sait, ça se fait partout. Hein. Mais là, au moins, c'est assez clair. Et les collecteurs d'impôts, ben, ils profitaient du système. Eux. Vous avez vu, ils sont associés à des pêcheurs. Donc c'est une autre catégorie, mais les collecteurs d'impôts, ils rentrent là-dedans. Donc les pêcheurs, c'est les gens de mauvaise vie. Ceux qui ont des mœurs un peu douteuses, les paumés, ceux qui ont une mauvaise réputation, une vie dissolue, qui fréquentent les prostituées ou qui sont eux-mêmes des prostituées, des marginaux, des gens perdus, rejetés par la société. Bref, c'est toute une population qui ne correspondait pas vraiment aux standards religieux. Hein. Et ces personnes, eh ben, n'étaient pas très respectées, elles étaient souvent méprisées du peuple et par les responsables religieux aussi. Ils méprisaient ces gens. Et pourtant, tous ces gens-là s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Et pourquoi ? Tout simplement parce que lui, au moins, il ne les rejetait pas. Il allait discuter avec eux, et c'est ce qui lui est reproché par les pharisiens. Hein ? Il mange avec ces gens-là. Ouh, c'est pas bien. Hein ? Il est l'ami des péagers et des pêcheurs. Quand on est ami avec des gens qui ont des mœurs douteuses, voyez, et les pharisiens disaient, oh, c'est pas des gens à fréquenter, ce gars-là. Vous voyez, ça les dérangeait, les pharisiens. Ils n'étaient pas à l'aise avec Jésus. Et donc, justement, les pharisiens et les spécialistes de la loi, donc c'est les scribes, ceux qui copiaient et qui étaient vraiment attachés à la loi, qui la connaissaient et qui l'enseignaient. Donc, c'était les spécialistes. Quand on avait une question à leur poser, même une question juridique, on allait les trouver, parce que c'était une théocratie. Tout était géré dans le peuple d'Israël de cette manière-là. Par contre, eux, contrairement aux pêcheurs et aux collabos, eh bien, ils étaient respectés pour leur connaissance de la loi. Les gens les appréciaient pour ça. Ils représentaient un peu l'élite spirituelle d'Israël. C'était les gardiens de la tradition, les défenseurs de la morale et de la pureté religieuse. Et ils étaient connus pour ça. Et on les appréciait. Ils étaient admirés par le peuple parce que le peuple n'arrivait pas au milieu du quart de la cheville des pharisiens. Et justement, leur problème, c'est que eux, ils profitaient de leur statut pour écraser un peu plus les autres. Et ils les liaient avec des fardeaux que eux-mêmes ne touchaient pas du doigt. Donc, vous voyez, c'était vraiment des gens particuliers. Mais eux se sentaient menacés. Donc, vous voyez, on a vraiment en opposition ici deux rapports avec Jésus. Il y en a qui sont attirés par Jésus. Alors, il n'y avait pas simplement parce qu'il les accueillait, c'est aussi parce qu'il les nourrissait, parce qu'il faisait des miracles. Donc, il y avait des guérisons, il multipliait les pains. Donc, il avait toute une foule aussi qui le suivait et qui l'admirait pour ça. Hein, on n'est pas dupes, et c'était le passage de la semaine dernière avec Nicodème. On a vu cette catégorie de personnes et comment on a pu les identifier. Et vous voyez, donc il y en a qui étaient attirés par Jésus et d'autres qui étaient menacés par Jésus parce que on savait pas trop comment le placer. Donc ça, c'était les pharisiens. Et donc, je vais résumer en gros comme ça. Les premiers, donc les pêcheurs, eux, ils savaient qu'ils étaient brisés. Alors que les seconds, les pharisiens, eux, ils pensaient être justes. Hein. La Bible dit que c'était des propres justes. On se sent juste. Hein. On n'est pas des pêcheurs comme les autres, nous. Hein. Il y en a qui reconnaissaient leur besoin de grâce, hein, un cadeau, ils ne méritaient rien parce qu'ils avaient péché, alors que les autres, eh bien, eux, c'était plutôt leur mérite. Vous voyez, on est vraiment dans deux catégories différentes ici. Il y en a qui s'approchaient de Jésus pour être sauvés, et les autres, donc les pharisiens, s'éloignaient de lui parce qu'ils pensaient ne pas avoir besoin d'être sauvés. Ben oui, quand on coche toutes les cases, on n'a pas besoin de ce salut-là. Parce qu'on se considère déjà sauvé, vous voyez. Et ça, c'est le grand danger des hommes religieux. Donc, vous voyez, c'est deux catégories de personnes que l'on trouve. Et c'est pour ça que ça va nous aider à comprendre pourquoi Jésus donne ces trois paraboles. D'ailleurs, c'est une des questions qui vient tout de suite. Quel est le thème commun à ces trois histoires ? C'est assez facile, en fait. Hein ? Qu'est-ce que vous repérez d'identique dans les trois schémas ? Une brebis perdue, une pièce perdue, un fils perdu. Vous avez vu, c'est chaque fois. Ok, à chaque fois, c'est la même chose qui se reproduit. Quelque chose est perdu, quelqu'un le cherche, et quand c'est retrouvé, qu'est-ce qui se passe ? On fait la fête ! Eh oui, quand vous avez retrouvé 10 000 euros sous votre matelas, je pense que vous faites la fête, hein, surtout si vous êtes un peu sec à la fin du mois. Et c'est un peu ce qui se passe là. On retrouve un drachme qui était caché. Waouh, ça nous est déjà arrivé avec Sandrine. Elle avait caché de l'argent juste avant de partir en vacances. On revient, impossible de mettre la main sur cette enveloppe. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? 6 mois plus tard, on l'a retrouvée dans un tiroir. On était trop contents parce qu'on s'y attendait pas. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe là. C'est que on perd quelque chose, il y a quelqu'un qui recherche, Et puis après, on fait la joie quand on le retrouve. C'est la joie. Et donc, le thème commun, ici, il est assez clair. C'est que Dieu cherche ce qui est perdu et se réjouit lorsqu'il le retrouve. C'est assez facile. Donc, Dieu se réjouit quand quelqu'un qui était loin de lui revient vers lui, se réconcilie avec le Père. Et vous voyez, c'est pour ça que le titre de cette leçon, de cette session, c'est la réconciliation. Ici, on a vraiment tous les éléments de la réconciliation. La personne est vraiment loin, hein. Vous vous déchirez avec quelqu'un, vous avez vraiment un conflit, donc vous vous séparez, vous vous éloignez, et à un moment donné, il y en a un qui dit « Waouh, j'ai péché ». Et qu'est-ce qui se passe? Il revient vous voir et il vous dit « Écoute, je te demande pardon. J'ai péché, je reconnais, j'étais nul, j'ai fait n'importe quoi. » Ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que vous faites? Dégage. Je ne veux plus te parler. En tant que croyant, les amis, on devrait faire exactement comme a fait ce Père, accueillir avec grâce. C'est ça la réconciliation. On va rentrer maintenant dans le détail, mais en fait, cette session nous permet de voir le cœur de Dieu. Si vous ne vous réjouissez pas lorsque quelqu'un vient vous demander pardon, les amis, c'est que vous manquez de grâce, mais copieusement, et que vous n'avez même pas saisi la réconciliation, parce que vous ne méritez pas plus que n'importe quel de ces deux candidats-là. On rentre dans la troisième question. Dans la troisième histoire, que pensez-vous du comportement du fils cadet? Et puis ensuite, la même question pour le père. Et puis, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est ça qui devrait se passer habituellement? Ok, c'est trois questions. Je vais répondre ici maintenant à ces trois questions. Alors la première, déjà, le comportement du fils cadet. Moi, j'ai mis trois mots. Choquant, inacceptable et scandaleux. Est-ce que vous avez aussi ce regard-là? Quand on voit le fils cadet demander son héritage à son père. Honnêtement, si mon fils vient me voir et qu'il me dit « Papa, donne-moi mon fric », alors que je suis encore vivant, il ne va pas être accueilli comme le père dans l'histoire. Je vous le dis tout de suite. Eh oui, je ne suis pas Dieu. Mais en tout cas, ça ne se fait pas. Donc Lenny, si tu avais eu l'intention de le faire, je te le dis tout de suite, ça ne marche pas. Tu n'auras que dalle. Et qu'est-ce qui est choquant en fait? Demander son héritage, ça est légitime, à partir de quand? Quand on est mort, les amis. Et oui, on ne demande jamais l'héritage du vivant. Alors qu'on vous lègue de l'argent, je comprends, fiscalement, c'est mieux. Ok, on peut donner une partie de l'héritage comme ça, mais généralement, et surtout au Moyen-Orient, l'héritage, c'était au moment de la mort. Et c'était légiféré dans la loi, les amis. Deutéronome 21, verset 17, disait qu'à la mort d'un père, le fils héritait. Et chaque fils recevait une partie de l'argent, et l'aîné recevait une double part. C'était le droit d'aînesse. C'est comme ça, cherchez pas à savoir si c'est juste ou pas. C'était le droit d'aînesse, c'est comme ça. Et donc vous pourrez lire Deutéronome 21, 17. Et j'ai surligné en jaune un mot important là. À la mort. Hein, pas du vivant, les amis. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Et encore moins dans la culture juive. En fait, ça envoyait quoi comme message? Ton fric est plus important que toi. En gros, c'est ça. Hein. Si on est franc et honnête, on regarde le jeune homme et puis c'est ce qu'il dit à son père. Je dis, je m'en fous de toi, ce que je veux c'est ton fric. Figurez-vous que on a regardé un film la semaine dernière, c'était une comédie, c'est un film comique, et en fait c'est un couple où ils voient jamais leurs enfants. Et ils s'imaginent un scénario, alors c'est tordu, je l'avoue, mais eux aussi se l'ont dit comme ça. Ils ont dit, tiens, on va faire un test, on va dire qu'on a gagné au loto. C'est pas vrai. On va gagner l'auto et on va leur dire et on va voir comment ils réagissent. Les enfants qui ne venaient jamais les voir, qui ne venaient jamais manger, qui faisaient sauter tous les repas, devinez ce qui s'est passé quand ils ont appris que papa et maman avaient gagné l'auto? pépette. Et eux, ils ont bien mis le truc, ils roulaient en Lamborghini exprès, ils avaient loué, hein. Ils n'avaient pas les moyens de l'acheter, mais bref, ils montrent un train de vie. Alors là, ça, les enfants tout de suite se sont intéressés aux parents, et là, ils ont pris la douche froide, les parents. Mais vous voyez, là, c'est exactement ce qui se passe là, c'est révélateur, en fait. La question, donne-moi mon fric, les amis, ça en dit long sur la relation qu'il y avait avec le père. Pas de relation, en fait, rien. C'est nul, hein. Mais vous savez que dans la culture juive, c'était encore plus fort que ça. En fait, vous savez ce que ça envoyait comme message ? J'aimerais que tu sois mort. Ben oui. Si je veux mon héritage, ça veut dire que je préférais que tu sois mort. Et là, en étudiant le sujet, je me suis aperçu qu'il y a des acteurs qui disent « Moi, je refuse de donner un héritage à mes enfants parce que je ne veux pas qu'on se réjouisse le jour où je meurs. » Je me suis dit « Ah tiens, c'est intéressant, il pourrait être dans l'histoire. » Et en fait, c'est choquant les amis, c'est choquant. Et vous allez voir, j'ai pas fini, j'ai encore d'autres arguments. Mais le premier comportement du fils est honteux. Ça se fait pas les amis, ça ne se fait pas. Alors, celui du père, qu'est-ce que fait le père ? Là, j'ai mis un petit peu récapitulatif. Le père, il leur partage leurs biens. Alors, il partage aux deux, d'accord ? Ça aurait pu être injuste s'il avait finalement donné qu'une partie de l'héritage. Mais on voit que le père est juste. Il redonne aux deux, mais comme il a réclamé son bien, ok, de mon vivant, je vais le donner aux deux. Okay, c'est son droit, c'est le droit du père. Et quand le fils revient, qu'est-ce que le père fait ? Il le regarde de loin, déjà il le cherchait, hein, il l'attendait, il le scrutait, il disait bon, il va quand même revenir un jour. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il court vers lui, il l'embrasse et il va organiser une fête. Et là, les amis, je me demande quel est le comportement le plus choquant entre celui du père ou celui du fils. Parce qu'en fait, pour moi, ça, ben, c'est exactement la même chose que pour le fils. C'est choquant, c'est inacceptable et c'est scandaleux. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ces choses ne se faisaient pas habituellement et ça ne se fait pas même dans le monde. En fait, si votre fils vient vous voir, la plupart du temps, on rejetait la demande. C'était une évidence. Mais non, t'attends que je sois mort. Tu ne vas pas hériter maintenant. Attends au moins que je sois mort. Vous voyez ? Ça se fait pas de demander son héritage de son vivant. Et c'est en fait une source d'embrouille garantie. J'ai eu ma maman qui est décédée. On n'est que deux dans la famille, mon frère et moi. Et là, quand on s'est rassemblés, alors il y avait les oncles, les tantes qui sont venus, et chacun a voulu garder un petit souvenir. Et les embrouilles ont commencé. Du vivant de ma mère, on se posait même pas la question, hein. C'était à elle, point barre. À partir du moment où elle n'était plus là, oh, les piques-assiettes sont arrivées. Ah, ça m'a fait rire, mais pleurer en même temps, parce que c'est triste. C'est triste, mais c'est la réalité. En tout cas, vous voyez, quand il y a un héritage, il y a souvent ce genre de choses qui se passent. Mais au Moyen-Orient, en fait, quand il y a quelqu'un qui demande son héritage ou qui fait quelque chose de honteux dans la famille, eh bien, symboliquement, vous savez ce qu'on fait ? On fait des funérailles. Quand on n'est pas fier de l'attitude d'un de nos enfants, quand on a honte de son attitude, la honte, c'est la culture de la honte, eh bien, c'est pas simplement là sur le père, mais c'est sur toute la famille que ça retombe. Et Florent Varac me racontait que dans la famille d'un de ses amis juifs, le jour où il s'est converti, eh bien, la famille a célébré ses obsèques. Vous imaginez ? Il était encore vivant, hein ? Il s'est converti au christianisme. Ok, il est mort pour nous. Ça, c'est violent. Et je sais qu'il y a d'autres familles qui ont porté le deuil, par exemple, pour un mariage qu'ils ne désiraient pas. La tête du beau-fils ne nous revient pas. Ils viennent habillés en noir le jour du mariage, cravate noire, comme des croque-morts. Vous voyez, c'est... Waouh ! C'est violent. C'est ce qui se passait au Moyen-Orient, et ça se passe encore. Hein. Ça se passe encore. Dans cette culture, on pleure et on se met en deuil. Même on renie et on se désolidarise lorsqu'un de nos enfants part en vrille et fait des choses honteuses, mais jamais de la vie on n'aurait fait la fête. Jamais. On ne faisait pas la fête, on était dans le deuil. Donc vous voyez, il y a vraiment un contraste. Quand on regarde ce que fait le père, on se dit « Waouh !» Mais ce n'est pas ce qui se faisait du tout dans la culture. Ce matin, je lisais le Deutéronome. C'est super pour le soir, si jamais. Mais le matin, ça réveille. Et je vais vous réveiller un peu. Et qui a des enfants désobéissants aussi? Ok. Vous voulez qu'ils soient plus désobéissants? Appliquez la loi, vous allez voir. C'est croustillant. Deutéronome 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle. Ok, on est là? Vous en avez? Plus personne ne parle. Ok. Donc, quand il dit indocile et rebelle, il dit qu'il n'écoute ni la voix de son père, ni celle de sa mère. S'il le châtie et qu'il ne leur obéisse pas, le père et la mère le saisiront et le mèneront vers les anciens de sa ville. Ok, là... Vous voyez, c'est vraiment de la rébellion. Hein. Après raisonnement du père, après raisonnement de la mère, après correction. Donc vous voyez, là, ce n'est pas des parents laxistes, hein, on est d'accord. Ce n'est pas un petit caprice d'un enfant. Là, c'est vraiment de la vraie rébellion. Ok, regardez le verset 19. Le père et la mère le saisiront par le callback, j'imagine. Non, par la main. Ils le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte de l'endroit où il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui ne nous obéit point. C'est un débauché et un ivrogne. Tiens, là, on est en plein dans le cas de figure du jeune homme riche, hein? Pas du jeune homme riche, du cadet, du fils cadet. Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël apprenne et soit dans la crainte. Donc si vous avez des problèmes avec votre enfant, appelez les anciens. C'est ce que dit le texte. Je vous rassure, on est sous la nouvelle alliance. D'accord ? Donc le respect de la loi, il est différent aujourd'hui. Okay ? La loi est gravée à l'intérieur, on l'a vu la semaine dernière, à l'intérieur du cœur. Donc, cette loi-là qui était applicable à Israël dans une théocratie, mais vous voyez que c'était dur. C'était dur. Eh bien, aujourd'hui, on a la grâce. On a la grâce. Mais toutes les autres choses, on peut les faire. Hein, mais quand on arrive à demander aux anciens de l'aide, les amis, c'est que c'est compliqué. C'est que c'est compliqué. Alors, je doute que ça soit fait régulièrement, ce genre de choses. Hein, c'était pas commun. C'était pas commun. En tout cas, c'est un élément choquant, vous voyez, que le père vienne embrasser son fils et qu'il fasse la fête quand il y avait un enfant désobéissant. Voilà ce qui se passait. Dans la loi, c'était ça. Donc là, on n'est pas dans un régime de loi, vous voyez. On est ailleurs, on ne sait pas trop, en fait. Mais pourquoi il raconte ça, Jésus? Vous voyez, il est en train de faire découvrir à son public quelque chose de nouveau. Et il y a un autre élément, alors ça c'est beaucoup plus culturel, mais c'est le fait qu'il court vers lui, qu'il l'embrasse et qu'il organise une fête. En fait, les anciens au Moyen-Orient, pour courir, ils avaient des grandes robes, il fallait l'élever pour pouvoir marcher et courir. Hein, vous voyez. Donc, pour courir, on ne levait jamais au Moyen-Orient, on ne montrait pas ses guiboles, on ne montrait pas ses jambes, ça ne se faisait pas, c'est honteux. Donc, vous voyez, ça c'est une autre chose qu'on voit pas forcément, parce que là il faut avoir une petite connaissance de la culture juive, mais c'était honteux pour un patriarche ou pour l'ancien de remonter sa robe pour courir. Et là c'est ce qui se passe. Donc vous voyez, il fait la fête, il relève sa robe, il accueille sans châtiment, à bras ouverts, et là on se dit, waouh, c'est déstabilisant pour les juifs. Les pharisiens ne comprenaient pas là. Et c'est pour ça qu'on peut se mettre dans la peau des basquettes, des pharisiens aussi, c'est que c'était perturbant. Alors, en fait, cette semaine, je regardais justement, est-ce que ça se fait aujourd'hui dans notre culture? Et je suis tombé sur une interview de Sting. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, c'est Police, le groupe Police. C'est dans les années 80-90, c'est une pop star ultra connu, fortuné. Bien, vous savez que dans l'interview, il dit qu'il ne lèguera rien à ses enfants parce qu'il considère que ce n'est pas leur rendre service. Donc, il, on va dire, dilapide. Il dépense son argent avec ses enfants, mais il ne leur lèguera rien à sa mort. Et c'est pas le seul. J'ai regardé, il y en a plusieurs. Elton John, vous savez ce qu'il dit ? Lui dit que donner trop à ses enfants, c'est leur ruiner la vie. Jackie Chan, oh, il date un peu, mais quand même. Lui, il a cette formule un peu cinglante. Regardez ce qu'il dit, je trouve ça intéressant. Si mon fils en est capable, il gagnera son propre argent. Ok ? Mais il ne s'arrête pas là, il dit, s'il ne l'est pas, donc s'il n'est pas capable, il gaspillera le mien. Mick Jagger, lui, 500 millions de dollars, pardon. Ça, c'est sa fortune personnelle. 500 millions, ça va, hein ? Eh bien, lui, il dit simplement que ses 8 enfants n'ont pas besoin de tout ça pour bien vivre. Bill Gates. Alors lui, il va céder quand même un peu d'argent. Lui, sa fortune, c'est 80 milliards. Il ne va leur léguer que 10 millions. Autrement dit, des miettes. Bon, je pense que je m'en satisferai, hein. Mais quand même, vous imaginez, sur 80 milliards, c'est énorme. Énorme. Il va donner que 10 millions. Finalement, il donne des miettes, hein, des cacahuètes, quelque part. Un petit apéro. Mais ce sont des gens du monde. Et vous voyez, même les gens du monde considèrent que... certains considèrent, en tout cas pas tous, mais certains considèrent que l'héritage n'est pas forcément une bonne chose. Bref, j'avance ici. En tout cas, dans notre histoire, on voit que c'est pas un père normal à laquelle on a affaire ici, hein, pas du tout, auquel on a affaire. Ici, c'est un père qui est Dieu, en fait. C'est l'image de Dieu, le père, dans l'histoire, clairement. Et Dieu, il n'est pas comme nous. Il réfléchit pas comme un homme. Il n'agit pas comme les hommes. Il n'est pas soumis aux mêmes conditions. En fait, Dieu, il est à part. Dieu, il est saint. C'est vraiment ce que ça veut dire. Il est autre. Il est différent de nous. Il ne fonctionne pas comme nous. Et dans cette histoire, en fait, le Père ne pense pas du tout à sa dignité à lui. Il n'y a pas besoin, en fait. Dieu est digne tout le temps. D'accord ? C'est pas parce que nous, on pêche, que Dieu sera indigne. Dieu n'est pas... Il ne réagit pas à notre péché. Enfin, il ne change pas son statut à notre péché. Il est mécontent, mais son statut, son identité ne change pas. Elle est invariable. D'accord ? Ici, en fait, le Père se focalise pas sur ce qu'il est lui, mais sur ce qu'est son Fils, sur la relation qu'il a avec lui. Et donc, ce que Dieu veut, le Père, ce que Dieu veut, donc ce que le Père veut, c'est se réconcilier avec son Fils. Donc, vous voyez, le Père, il a cette image-là, c'est la réconciliation, c'est ça le plus important. Et ça, c'est une image bouleversante, finalement, de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu, il use de grâce et de compassion beaucoup plus, 1000 fois plus que la miséricorde, que la colère, pardon. Dieu donc n'est pas seulement juste, on l'a rappelé ce matin, il est en même temps plein de compassion et il veut le meilleur pour nous. Et c'est là où il se concentre ici. Et vous allez voir que dans les deux situations, généralement, on a tendance à parler de l'histoire du fils prodigue, donc le cadet. Mais les amis, je pense que l'accent, il n'est pas là. L'accent, il est sur le deuxième fils. En fait, il est sur les deux, mais principalement sur le deuxième fils. Parce qu'il y a une fin heureuse pour l'un et pour l'autre, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est la quatrième question. Qu'arrive-t-il au fils cadet ? Qu'est-ce qui le fait réfléchir ? Quelles sont ses motivations ? Dans quelle attitude est-il à la fin de ce passage ? Alors, au début, hein, tout va bien. Il reçoit son héritage, il en profite à fond, il a de l'argent, la liberté, en fait, il n'y a plus personne pour le retenir quelque part. Il fait ce qu'il veut et donc il va partir dans un pays lointain et là il va dépenser toute sa fortune en vivant dans la débauche. Alors c'est pas trop difficile à imaginer hein, parce que il suffit d'allumer votre écran de télé et vous regardez toutes les stars, eh bien vous avez la vie d'un débauché. En gros, hein. Alors, toutes les stars ne sont pas comme ça, mais dans la jet set, c'est ce qui se passe. C'est les soirées mondaines, c'est la boisson qui coule à flot, la drogue et j'en passe, c'est des meilleurs. Et là, bien sûr, il y a, comme on l'a rappelé la semaine dernière, il y a les pique-assiettes qui débarquent, parce que quand on a de l'argent, eh bien, du coup, on le dépense beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui va se passer pour cet homme qui avait beaucoup d'argent, mais il va tout dilapider très rapidement. Et la famine va même arriver au point qu'il a même plus de quoi manger. Il va devoir aller faire un travail et il trouve même pas un job pour tout le temps, enfin c'est pas un job fixe, il va aller ramasser des caroubes. Donc c'est ce que vous avez, hein, c'est l'épaississant E410, je crois, dans toutes les recettes que vous mangez, le caroube, la farine de caroube. Et donc ça c'est ce qu'on donne aux cochons pour les engraisser, hein. Donc lui il mangeait ça. Pas terrible. Mais voyez à quoi il était réduit, la nourriture pour cochons. Il allait engraisser les cochons pour un juif. Ouf. C'est tombé très très bas. C'est un animal impur, le cochon. Donc travailler au milieu des cochons, les amis, il fallait être tombé très très bas. En tout cas, il est dans la famine, et là, le texte dit qu'il se met à réfléchir, ça c'est dans notre version, dans une autre version, il dit qu'il rentre en lui-même. Hein, c'est une expression, il vient, il fait une introspection, il prend la petite caméra interne et il regarde à l'intérieur du cœur. Hein, on fait une introspection, vous savez faire, un petit bilan de santé. Tiens, ok, on va réfléchir cette année, pourquoi je suis comme ça en fait. Ça, c'est bien de le faire de temps en temps. Eh bien là, c'est des moments propices. Quand on n'a plus rien à manger, les amis, quand on est dans la misère, c'est souvent ce qui se passe. On va réfléchir aux choses, surtout lorsqu'on a goûté des bonnes choses et que là, on est en train de manger le fond de la poubelle. C'est là qu'on se met à vraiment réfléchir. Et je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont dû toucher le fond pour pouvoir mieux remonter. Mais ils ont dû toucher le fond parce qu'ils sont allés très loin et que bah, Dieu il est venu les chercher là. Il y en a plusieurs même, hein, j'en connais plusieurs ici. Dieu il attend parfois et c'est nécessaire parce qu'on se pose les vraies questions dans ces moments-là. Et là, cet homme il s'est posé les vraies questions. Alors oui, il a fait des bêtises. Hein. Il a fait des bêtises, mais il va les reconnaître. Hein, vous avez vu ce qu'il dit ? Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors c'est une métaphore et c'est une parabole. Donc du coup, c'est quand même Dieu. Il reconnaît qu'il a péché contre le ciel. Donc c'est contre Dieu et contre son Père terrestre. Mais comme c'est une parabole, en fait pour nous c'est la même personne, mais pas ici. Il le sépare, ce qui est normal. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reconnaît sa faute et il fait quoi ? Il décide de retourner en arrière, même si c'est simplement comme un ouvrier. Hein. Il pense aux gens qui bossaient pour son père et il se dit « Waouh, même eux, ils mangent à leur faim. » Même les esclaves de la maison, les serviteurs, ils mangent à leur faim. En y pensant, il s'est dit « Waouh, je veux simplement être comme eux, ça me suffira, j'aurai au moins de quoi manger. » Vous voyez ? Et donc, il va revenir. Alors, dans quelle attitude il le fait ? Et à la fin du passage, en fait, lorsqu'il revient, c'est plus le même homme. Il a changé. Il a changé. Au départ, c'était quelqu'un d'ingrat, indifférent, arrogant, persuadé que l'argent, la liberté, ça allait le rendre heureux. Je ne sais pas si vous en êtes là. Bah, peut-être qu'il va falloir que vous dilapidiez toute votre fortune et que vous alliez goûter le fond de la poubelle ou toucher le fond, tout simplement, dans la vie. Avoir une grosse galère pour réfléchir. Donc là, on a affaire à un homme qui est brisé. C'est pas le même homme qu'au début. Et donc, il devient humble. Et comme on le sait, bah, c'est dans sa phrase « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Donc, il recherche même pas son statut. Légalement, c'est encore le fils. Mais vous voyez, il est prêt à s'abaisser et à devenir comme un esclave. Il est prêt à faire ça, à être comme les employés de son père. Il revendique rien, il reconnaît simplement son péché. Hyper important cette attitude-là, parce que c'est celle qui nous sauve. Et il y a une différence entre quelqu'un qui a des remords et quelqu'un comme cet homme qui se repent. Et je vais vous montrer ici, c'est rapide, mais la différence entre avoir des remords et être repentant. Quand on a des remords, en général, c'est stérile. Les gens qui sont dans le remords, vous savez ce qu'ils disent ? Ils disent « Je regrette ce que j'ai fait ». Je suis trop nul. J'ai honte de moi. Ok? Vous connaissez ça? Vous en connaissez des gens comme ça? Hein, des gens qui vous dites, waouh, est-ce qu'il serait humble? Je crois pas. En fait, combien de fois il a dit je? En fait, là, c'est centré sur moi. En fait, je suis nul, on s'apitoie sur soi. Mes amis, je vous dis ça parce que c'est hyper important dans les témoignages que j'ai entendus, des fois où moi j'ai amené des gens à la foi, parce que c'était ça. C'était du remords. Ah, j'ai été une mauvaise mère, j'ai été une mauvaise épouse. Et vous voyez, à l'époque, j'avais pas pris conscience de ça, mais c'est exactement ça. C'était du remords. Ne vous laissez pas avoir par ça. Ça, c'est centré sur la personne. Parce que c'est elle. Ah, et puis qu'est-ce qui se passe? Judas, il y a eu beaucoup de remords, Judas. Il n'est pas capable d'affronter la réalité. Donc, soit les gens y partent, hein, en général, c'est ce qui se passe. Quand c'est du remords, ils s'en vont. Ils ont un souci dans l'église, au lieu de se réconcilier, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, j'ai eu tort, ouais, c'était pas bien. Puis en fait, ils s'en vont et on ne les voit plus. Ça, c'est parce que c'est centré sur soi. La repentance, ça n'a rien à voir. Regardez ce que dit le jeune homme, il dit « J'ai attristé mon père ». Autrement dit, je reconnais que je t'ai fait du tort. Okay ? « Je veux corriger mes erreurs, je me lève et je retourne vers toi. » Alors vous allez me dire, il y a « je » là-dedans. Oui, parce que forcément, la repentance, elle est personnelle. Mais sur qui elle est centrée ? Sur l'autre, sur le mal que l'on a fait. Donc vous voyez la différence entre le remords et la repentance ? Il y en a un qui est centré sur soi, l'autre qui est centré sur ce qu'on a fait à l'autre. Waouh, je t'ai blessé. Mes amis, ce que je vous dis là, c'est fondamental dans l'Église. Mais vraiment, vous allez rencontrer des situations de conflit, c'est inévitable. EEIG, vous rappelez ce que l'on est. Église évangélique, imparfaite, de Genève, pas de Genève, des graciés. Église imparfaite, des graciés, c'est ce que nous sommes. Donc quand on dit imparfaite, ce n'est pas pour rien que j'utilise ce vocabulaire-là, c'est parce que vous allez vous mordre les uns les autres. Des fois, on ne le fait pas exprès, mais ça va arriver. Une parole qui va sortir de notre bouche, une attitude qui va vous déranger. Faites-moi pas un grand sourire, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas encore vécu, ça ne va pas tarder. Donc, on le sait qu'on est imparfait. Donc c'est pour ça qu'on nous prêche l'évangile régulièrement. Et ça, c'est la base de la base, la réconciliation. Donc dans nos relations les uns avec les autres, on devrait avoir cette attitude de repentance, centrée sur le mal qu'on fait aux autres. Si tu commences à me dire « Ah, j'ai des regrets », je dis « Ok, c'est bien, ça commence bien, mais vas-y, va plus loin. Est-ce que tu es prêt à changer, à demander pardon ? Oui. Est-ce que tu reconnais que tu as vraiment fait du mal à l'autre ? Si ce n'est pas le cas, les amis, ce n'est pas de la repentance. Ok ? Et donc là, ça conduit à une action. La repentance, elle conduit à quelque chose, à une action. Ce n'est pas simplement une parole, ça va se traduire par des actes. La repentance, elle est toujours suivie d'un acte. Ok ? Et là, il revient. Donc on voit très bien qu'il a compris ce que c'était. Il revient quand même. C'est dur, hein, les amis. Je pense qu'il devait avoir honte aussi, le fils cadet. Mais il est revenu quand même. Parce qu'il avait blessé son père. C'était ça le plus important. C'est mon père. Je veux cette relation avec mon père parce que j'ai gâché quelque chose et c'est de ma faute. Vous voyez ? C'est pas « Ouah, je suis trop nul, je ne peux pas y arriver. » Ouh, ça a envoyé du lourd là. Quelle est l'attitude du fils aîné ? Ah ah ! Là, il faut vraiment s'y intéresser à cette attitude-là parce que elle n'est pas meilleure en fait. Elle n'est pas meilleure et j'allais dire qu'elle est même pire. Elle est pire. En fait, le fils aîné, lui, il est occupé au champ. Donc lui, hein, c'est le besogneux, il fait tout bien, il a des bonnes notes à l'école, il a eu son bac avec mention, puis après il a travaillé, il n'a jamais dilapidé son argent, il le place à la banque. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un, on pourrait dire un Genevois de l'EIG. Et vous avez vu qu'il ne rentre même pas dans la maison. Ça, c'est significatif. Il demande à un serviteur d'aller se renseigner sur son frère. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Il y a le Vaugrac qui a été tué, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est pour mon frère ? Non, mais sérieux. Le père, il disjoncte. Vous voyez l'attitude ? Au lieu de se réjouir, il y a mon frère qui revient. Il avait pété un câble. Ok, il a fait des bêtises. Ok, et on n'est pas en train d'excuser les bêtises, hein. Mais il revient, repentant. Et qu'est-ce que fait le fils ? Regardez bien l'attitude. Il en veut au père. Il pointe le père. Il est en colère contre son père. Il y a tant d'années que je te sers. Je n'ai jamais désobéi. Vous voyez ? Là, on est vraiment dans une attitude où on se dit, mais waouh, quelle dureté en fait. Quelle dureté. Et il pointe sur ses œuvres. Ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Moi, j'ai tout bien fait. J'ai coché toutes les cases du bon disciple. Je suis allé à l'église le dimanche, je suis allé au groupe de maison. J'ai tout fait bien, je me suis fait baptiser. Je suis devenu membre de l'EIG. Et en fait, son attitude-là, elle révèle quoi ? Sa jalousie, son ressentiment et la relation, la nature de la relation qu'il entretient avec son père. Il n'a pas de relation, il ne veut même pas rentrer dans la maison, il est en colère contre lui. Et vous voyez, celui-là, on ne l'a pas vu venir. Hein. On voit le débauché, alors oui, c'est pas beau, hein. Goûter le fond d'une poubelle, mais là, ouhou, ouhou. Ce serait terrible d'entendre cela de la bouche de ses enfants. Honnêtement. Aucune marque d'affection. Je te sers depuis des années, papa. J'ai rempli la vaisselle. J'ai bien fait mon taf. J'ai fait le ménage quand tu me l'as demandé. Je me suis occupé de ma sœur. J'ai bien fermé la porte avant de partir, vous voyez. On peut cocher les cases. Mais il n'y a pas de marque d'affection. Et là, ça ressemble plus à une relation légale. Vous voyez, employé-employeur. C'est le genre de relation que vous avez avec votre patron, en fait. C'est une relation maître-esclave. Mais ce n'est pas une relation filiale. Père-fils. Père-fille. Vous voyez, on est vraiment dans une relation légale ici. D'ailleurs, le mot qui est utilisé, ça évoque presque le service d'un esclave, hein, quand il dit ça. Cette phrase, je te sers depuis des années. C'est vraiment le même mot qu'on utilise pour les esclaves, les serviteurs. Et donc lui, il partage absolument pas la joie de son père. Et puis regardez, il y a un petit détail. Ça, c'est vraiment les petits détails dans le texte. Le fils aîné, il dit même plus mon frère, mais il dit ton fils. Oh, oh. Là, ça en dit long aussi, hein. C'est plus mon frère, lui, je l'ai rayé de la carte. C'est ton fils, c'est toi le responsable. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bon, les amis. Et là, on voit que la distance, elle est waouh, grandiose. Hein. Alors, la question, c'est pouvez-vous imaginer comment le fils aîné a réagi à cette réponse ? Là, je crois que j'en ai dit suffisamment, mais le texte s'arrête là, hein. On est un petit peu sur notre fin parce qu'on aimerait bien qu'il y ait une suite et qu'il nous dise ce qui se passe. Et Dieu, il laisse du suspense. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire réfléchir un des publics. Qui est-ce qu'il veut faire réfléchir ? J'ai dit qu'il y avait deux types d'auditoires, les pêcheurs et les collabos, et les pharisiens et les scribes. À votre avis, c'est pas compliqué là, hein ? On voit tout de suite à qui les pharisiens pouvaient s'identifier. Et c'est ce que Jésus fait ici. Et il est en train de leur dire, mon ami, la relation légale que tu as avec la loi, elle n'est pas suffisante. Tu dois naître de nouveau. Tu dois avoir une relation filiale avec moi. C'est ce que Dieu veut, en fait. Il veut être réconcilié avec chacun d'entre nous. Dieu veut une relation filiale. Je ne sais pas quel genre de relation vous avez avec Dieu. J'ai bien lu ma Bible ce matin, je suis bien allé à l'église. Vous voyez, ce genre de choses, on peut l'avoir même en tant qu'évangélique. Et moi, je considère que je suis plus proche, en tout cas en ce moment, des petits pharisiens que du jeune homme riche. Peut-être que ce n'est pas ton cas, mais en tout cas, je m'associe plus facilement. Ça sera une des questions de la fin, mais quand même. Il faut que j'accélère là. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Quels sont les sentiments du père à l'égard de ses deux enfants ? Les amis, il aime les deux, en fait. Dieu, il aime tout le monde. Il nous aime. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il veut une relation filiale avec nous. C'est ça le plus important. Alors que là, il y avait une relation légale avec l'un de ses fils. L'autre revient et il est accueilli par le père. Donc vous voyez, on peut avoir des grosses casseroles dans la vie, avoir été très loin. Le jour où on touche le fond, qu'on réfléchit et qu'on prend la main que Dieu nous tend, qu'on voit ses grands bras ouverts, et ce matin, les bras du père sont comme ça. Je pense que on est dans ce cas de figure ce matin. Dieu vous accueille à bras ouverts. Si vous avez une relation légaliste avec Dieu, si c'est juste légal, parce que j'ai bien fait mon job, mes amis, Dieu veut une relation filiale avec vous. Il veut que vous ayez une affection, parce qu'il a de l'affection pour vous, et il veut vous prendre dans ses bras. Septième, en quoi les deux fils ressemblent-ils aux auditeurs de Jésus dans ce passage ? Bon, ben là, c'est facile, je viens d'y répondre. Qu'ont dû ressentir ces deux groupes en écoutant Jésus ? Bien, je pense que c'est pas pour rien qu'on aime les témoignages forts, les amis. Hein ? Quand on voit des gens, des brigands, moi j'ai connu des gens qui ont fait des casses de banque, qui ont fait des années de prison, et qui sont missionnaires aujourd'hui. J'avais un frère, on aimait trop l'écouter parce que quand il raconte ce qu'il a fait et qu'on voit ce qu'il est devenu, ben il y en a un là, un petit bandit là parmi nous. Discutez avec Marcel, vous allez voir, c'est intéressant. Mais en fait, non, il a pas cambriolé des banques, il volait des poules, c'est pas pareil. Je suis en train de le trahir, mais c'est de notoriété publique, vous inquiétez pas. En fait, on a tous un passif. Moi, je peux dire qu'il est pas très glorieux. Et c'est pour ça qu'on aime bien écouter ce genre de témoignage, parce qu'on dit « Waouh, Dieu, il nous aime à ce point-là. » Oui, mon ami. Oui, mon ami. En fait, on se dit que si Dieu les a accueillis, eux qui ont goûté le fond des poubelles du McDo, eh bien Dieu, il m'accueillera à moi qui goûte les poubelles du Crown Plaza. Hein ? C'est mieux quand même. Hein ? Les poubelles, mais ça reste des poubelles quand même. Vous voyez ? Et donc là, il faut qu'on prenne conscience. Waouh ! Dieu nous aime à ce point-là. À ce point-là. Parce qu'il veut se réconcilier avec moi. Par contre, les religieux, eux, ils ont dû se sentir visés et on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais je pense qu'il a voulu dénoncer ce qui se passait et il fallait, c'était écrit, que le peuple juif le rejette. Et les religieux représentaient le peuple juif de cette époque. Mais il y avait un petit reste. Et ce petit reste, ben finalement, c'est le fils cadet qui le représente. Alors, qu'est-ce que vous ressentez ? Auquel des deux enfants vous identifiez plus ce matin ? Le jeune homme qui a péché, qui a goûté vraiment les bas-fonds de la vie, ou bien l'autre, celui qui fait tout bien ? C'est une question ouverte, hein ? Je n'ai pas la réponse, il n'y a que vous qui pouvez la donner. En tout cas, moi, je pense que dans la vie, on va traverser les deux situations. Parfois, on sera rebelle. On va désobéir. Peut-être votre cas maintenant. On en connaît des cas. On connaît des gens qui sont rebelles aujourd'hui, qui désobéissent. Et puis, ben, voilà, ils sont obligés de passer par la repentance. Et puis, ben, il y a l'orgueil. Ça, c'est pour les autres. On est orgueilleux. On ne veut pas entendre ou recevoir des leçons des plus jeunes que nous. Ça, c'est plutôt les religieux. Et en fait, on va se retrouver dans la vie, parfois dans un camp, parfois dans l'autre. On va naviguer entre les deux, en tout cas. Ça, c'est sûr. En tout cas, ce qu'on doit comprendre, c'est que le Père nous veut avec lui. Il veut qu'on revienne à lui. Et peut-être que ce matin, tu es déjà chrétien. Hein, il a pas remis en cause le Fils, simplement son attitude. Donc ton attitude, elle va être révélatrice. Est-ce que tu reviens au Père, même si tu t'es éloigné pour un temps, ça peut arriver ? Reviens à moi. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un seul pécheur qui se repent ? C'est la fête, les amis. C'est la fête. Dieu se réjouit, les anges se réjouissent. C'est ça qu'on doit retenir de ce texte, les amis. C'est que si on revient à Dieu, Dieu fait la fête. Et nous, on peut la faire avec lui, du coup. Parce que le Vaugras, ce n'était pas que pour le Père. C'était aussi pour nous. On est des privilégiés parce qu'on va pouvoir goûter à la fête. Et c'est ça la joie du salut. Ceux qui ont été loin dans leur vie chrétienne, avant leur vie chrétienne, pardon, qui ont été vraiment souillés dans leur vie, qui se sont brûlés des ailes, quand ils reçoivent le salut, les amis, mais ça change tellement les choses. Moi, ça a bouleversé ma vie. Le fait que je rencontre, j'avais une vie de patachon, hein, honnêtement. Je ne vous raconte pas les détails, mais si vous voulez, je vous donnerai ça en off. Mais j'avais une vraie vie de patachon. Le jour où j'ai découvert le salut, mes amis, ça a totalement changé ma vie, mais radicalement. Mais en bien, en bien. Alors, on va juste prier. Il y avait encore deux questions, mais on ne va pas les faire. Je vous laisse juste cette phrase. Le fils cadet, il ne revient pas avec une solution. Il revient avec une confession. J'ai péché. Est-ce que tu as besoin ce matin de te confesser, de dire à Dieu, que tu sois le fils cadet ou l'autre? Peut-être que toi, tu crois donner une solution à Dieu et Dieu te dit non. Il veut ta confession. Il veut ta confession. Reconnais simplement que tu es pécheur. C'est ce qu'a fait Nicodème, c'est ce qu'a fait la Samaritaine, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que la plupart d'entre vous avaient déjà fait. Mais voyez, ça c'est l'évangile. On peut s'éloigner après. On peut faire comme le fils aîné. Parce qu'on est des bons chrétiens de l'EIG. Parce qu'on a une bonne théologie ici. On est les meilleurs. Pas sûr, hein. Pas sûr. On reste le I, hein, dans EIG. Hein. Ne l'oubliez jamais, ça.